Mémoire d'un continent.
Elikem Bokolo.
Cette émission vous est présentée en partenariat avec l'UNESCO.
Enseigner l'histoire générale de l'Afrique, l'invention épistémologique. La question des concepts qu'on utilise dans l'histoire de l'Afrique, aussi bien l'histoire passée très lointaine, les Noirs, les Blancs, les Pygmées, les villageois, les villes, les empires, les États, les villages, et qu'on emploie aussi dans le vocabulaire d'aujourd'hui, pays émergents, pays sous-développés, retard économique, etc., pose évidemment beaucoup, beaucoup de problèmes. Évidemment, l'historien aujourd'hui travaille avec les autres sciences sociales. On ne peut pas faire l'histoire de l'Afrique sans maîtriser la philosophie, puisqu'il y a beaucoup de philosophes qui ont écrit sur le passé africain, en bien et en mal. On ne peut pas parler de l'Afrique sans parler d'économie, et donc toute l'histoire de l'Afrique est à la fois l'histoire d'invention technique, d'invention des relations économiques, et aussi des problèmes de spoliation, qui produisent des effets jusqu'à aujourd'hui. Je suis avec Martial Zé Bellinga, qui a beaucoup écrit à la fois sur les problèmes d'histoire contemporaine de l'Afrique, la décolonisation, est-ce qu'elle a eu lieu, est-ce qu'elle doit avoir lieu, ou encore les problèmes d'économie, notamment un dernier livre sur la zone franc et le franc CFA, comment s'en sortir, et qui en même temps, au-delà des problèmes théoriques, produit des études très concrètes. Nous avons vu dans une précédente émission un certain nombre de notions qui doivent être critiquées et qui, malgré les critiques que nous faisons depuis un demi-siècle, continuent à être employées. Mais en même temps, on voit qu'il y a quand même des avancées. L'Afrique n'est pas le seul continent qui a été colonisé, qui a connu des génocides, qui a connu l'esclavage. D'autres, avant nous, sont passés par là, notamment en Amérique latine, où dans vos propres travaux, vous montrez qu'il y a tout ce débat sur la décolonialité, donc à la fois le rejet de la colonisation et surtout le rejet de la rationalité qui est liée à la colonisation. Alors aujourd'hui, on va voir le genre d'invention qu'on peut faire, et les domaines dans lesquels on peut avancer, les pistes que l'on doit privilégier. Vous en distinguez d'abord une, qui est la primauté à donner aux dynamiques internes.
Oui, c'est-à-dire que si on essayait de regarder sur la période dite coloniale, elle a produit ces humanités, ces concepts, ces savoirs, qui étaient des savoirs instrumentaux, qui permettaient en réalité de lire une Afrique assignée à la place qu'on voulait. Et donc on passe progressivement, déjà avec l'histoire générale de l'Afrique, ça a été un temps fort pour restituer à l'Afrique en fait sa propre historicité, comment elle fonctionne vue d'elle-même. Et je pense que si on veut comprendre notre passé et en faire une histoire, et que cette histoire devienne à la fois mémoire, mais surtout, de mon point de vue, ressource, parce que l'histoire est d'abord pour moi une ressource, parce qu'elle permet de vivre et de vivre mieux, eh bien il faut qu'on comprenne de l'intérieur, qu'on lise les acteurs de l'intérieur. Ça a beaucoup d'implications. Par exemple, une implication sur les langues. J'ai la conviction qu'le chercheur africain de à venir sera nécessairement quelqu'un qui connaît au moins la langue et qui domine la langue de son sujet. C'est parce qu'on voit bien qu'il y a des tensions. Il y a le problème des traductions qui sont plus ou moins des trahisons. On le retrouve dans les ethnonymes où on a dit à tel explorateur, voilà, je m'appelle comme ça, et puis il a dit, ah ben tiens, j'inverse parce que ça sonne bien. Et on retrouve ça dans les questions scientifiques. Donc si on veut lire les sociétés africaines de l'intérieur, il y aura des préalables, notamment en matière de langue, et puis il faudra avoir une entrée anthropologique aussi, comprendre les rationalités des peuples, les rationalités en cours. Mais ces rationalités, elles sont pas assises sur rien, elles sont assises aussi sur des contraintes environnementales, sur des contraintes économiques, sur des contraintes politiques. Et je pense que de cette façon-là, d'ailleurs je rencontrais une de vos éminentes collègues, madame Adam Bakonaré, qui disait ben moi j'ai étudié les sonrailles et j'étais convaincu de tout savoir, et puis je suis allé voir les descendants des sonrailles et la première chose, tout ce que je leur ai raconté, ils ne reconnaissaient pas du tout leur propre histoire dans ce que j'avais dit, et puis ils ont dit bon, comme on dit souvent, ah bon, les blancs ils disent ça, mais en fait elle nous a confié que elle a beaucoup plus appris finalement avec tout ce qu'elle entendait directement par la langue et puis par les descendants eux-mêmes. Et là, on peut restituer, sortir de ces catégories essentialistes, à savoir les tels sont comme ceci, les uns sont maçons et ils ne seront que ça. Non, on peut comprendre de l'intérieur quel est leur projet, qu'est-ce qu'ils ont envie de faire, contre quoi ils se battent et quel est leur univers. Ce n'est qu'en reconstituant à travers les croyances, à travers les cosmogonies, à travers les savoir-faire, les codes éthiques, qu'on comprend pourquoi tel et tel type de décision a été prise. Pourquoi, par exemple, à certains moments, quand un explorateur arrive, entre guillemets explorateur, mais comment ça se fait qu'on lui tend les bras, on ne l'agresse pas tout de suite, comme c'est arrivé à certains, comme Mungo Park, entre autres. Eh bien, il y a une éthique de l'accueil de l'étranger, il y a une éthique de la solidarité qui veut que cette personne qui n'est pas de chez nous est d'abord à protéger quand elle est dans notre espace. On le voit dans la charte de Kurugan-Fuga, mais on le voit aussi dans beaucoup d'autres traditions ou dans d'autres usages anciens. Et ça veut dire que si on ne relie pas de l'intérieur pour comprendre quelle est la logique, quelles sont les rationalités à l'œuvre, on ne comprend pas, on ne fait pas une histoire africaine. On fait une histoire toujours des autres en Afrique, ou alors une Afrique vue par les autres. Et c'est radicalement insuffisant si nous voulons et nous connaître et nous projeter.
Martial Zebelinga, dans une précédente émission, nous avons parlé de ce concept d'ethnie, de tribu, et aujourd'hui on se rend compte que l'une des difficultés que l'on a dans l'enseignement de l'histoire de l'Afrique, c'est que les États s'emparent de cette histoire. Donc on dit que l'histoire de l'Afrique, c'est bien, mais nous allons commencer d'abord par l'histoire de notre État. Au mieux, on va dire, bon, on commence par l'histoire de notre sous-région, l'Afrique australe, l'Afrique centrale, l'Afrique du Nord. Or, aujourd'hui, vous travaillez avec d'autres, dans le cadre de cette histoire générale, sur la notion d'Afrique globale. Alors, qu'est-ce que ça ajoute de positif et de dynamique dans la connaissance du passé africain et de son devenir ?
Prenons un exemple qu'on a déjà cité et qui pour moi va plus loin qu'un exemple. Il a la force d'un vrai paradigme. Quand on parle du panafricanisme, on dit panafricanisme, tous les Africains contemporains entendent Afrique, entendent unité africaine et d'emblée s'imaginent donc des grandes figures africaines. Il a fallu faire un travail important pour que les Africains contemporains se rendent compte qu'en réalité, ce panafricanisme, en grande partie, il est né en dehors de l'Afrique et fabriqué par des afro-descendants. Et c'est une Afrique globale rend compte de ce type de phénomène. Une Afrique globale, aujourd'hui, a beaucoup à nous apprendre quand vous prenez, par exemple, les pratiques d'épargne traditionnelle. Épargne traditionnelle qui existe encore dans beaucoup de pays africains avec différents noms. En Afrique de l'Ouest, on retrouve souvent le nom Soussou et Soussou, etc. Eh bien, ces pratiques d'épargne, on les retrouve en Amérique, on les retrouve aujourd'hui, on les retrouve en Jamaïque et dans certains cas avec le même nom. C'est-à-dire qu'on peut à la fois lire les parentés, lire même, comprendre aussi les trajectoires migratoires et comprendre les différents peuples qui ont migré ou qui ont été déportés, mais également voir comment leur culture et leur civilisation a finalement marqué les peuples dans lesquels ils se trouvent, comment ils ont influencé les langues dans lesquelles ils parlent aujourd'hui, que ce soit le portugais, l'anglais, etc. L'Afrique globale nous donne cette perspective-là et cet espoir de lire une Afrique différemment, lire aussi les trajectoires des Africains à travers le monde, lire comment les cultures africaines sont sorties du monde, comment elles ont aussi influencé et hybridé le monde. Et finalement, on a une lecture beaucoup plus riche de ce qu'est l'Afrique, qui n'est pas simplement l'ancienne colonie romaine, qui n'est pas simplement le territoire qu'on connaît aujourd'hui, mais c'est aussi, l'Afrique, elle est aussi vaste que ces diasporas, entre guillemets, même si ces diasporas ne se réduisent pas à l'Afrique et ne se réduisent pas non plus à l'univers africain. Mais en tout cas, c'est une perspective extrêmement intéressante qui explique ce qu'une Afrique territoriale comme on la connaît aujourd'hui ne peut pas expliquer. Aujourd'hui, si on veut comprendre pourquoi est-ce qu'on retrouve des parentés avec certains peuples hors d'Afrique, il faut avoir une vision plus globale de l'Afrique. Mais si on veut aussi comprendre pourquoi on retrouve certaines techniques culturelles, certaines techniques, par exemple, on a retrouvé des façons de creuser des mines, que ce soit en Amérique ou ailleurs, ou si on veut expliquer des pratiques culinaires en Amérique latine ou des pratiques religieuses, simplement certains cultes religieux, eh bien, il faudrait faire le va-et-vient entre l'Afrique et les territoires vers lesquels sont allés les Africains. Et je pense que beaucoup d'Africains, beaucoup d'Afrique contemporaine et territoriale trouveraient une explication à leurs pratiques, à leurs problèmes, à leurs difficultés, en comprenant, en lisant les pratiques qu'on observe en diaspora, que ce soit la diaspora de l'océan Indien d'ailleurs, ou les diasporas plutôt américaines. Et donc ça, pas seulement une posture, je dirais, c'est un outillage qui est aussi un outillage intellectuel. Cette Afrique globale, c'est un concept global, c'est un paradigme qui nous permet de comprendre mieux l'Afrique, comprendre les relations de l'Afrique avec le reste du monde, mais aussi de nous projeter, de lire l'ensemble des répertoires de savoir, de savoir-faire que l'Afrique a enfanté et qu'elle a continué d'apporter au monde.
Je suis avec Martial Zebelinga et nous discutons ensemble des problèmes, disons, basiques, fondamentaux de l'écriture de l'histoire générale de l'Afrique et surtout de son enseignement et de sa transmission aux jeunes générations. Les Africains aujourd'hui sont pris dans une sorte de tourbillon spirituel dans lequel les nouvelles religions, dit-on, nouveau avec des guillemets, apparaissent de nouvelles manières, dit-on, de prier, de se retrouver. Tout ça donne l'impression que c'est une histoire qui commence. Comme on a dit, notamment au XVe siècle, c'était une histoire qui commençait avec l'avènement du christianisme venu directement d'Occident. Comme on a dit au 7e, 8e, 9e siècle, à propos de l'islam, que c'est une histoire qui commence là aussi. Alors, la religion, c'est un phénomène, bien sûr, très important, pas seulement sur le continent africain, et pendant longtemps, on a eu tendance à étudier ces religions africaines sous le prisme de la tradition. Les Africains croient que... Alors, aujourd'hui, comment fait-on pour introduire de l'historicité et un regard africain dans l'histoire des religions africaines?
Alors, comme vous dites, le plus compliqué, le plus difficile, c'est que beaucoup d'Africains ont intériorisé ces vues et que quand les Africains parlent eux-mêmes de leur culture et de leur religion, ils adoptent les positions, que ce soit les positions d'ailleurs des tenants des religions abrahamiques ou alors oui, islam, christianisme, etc. Et donc il y a comme une barrière, il y a comme un voile et comme une plus qu'une distance qui s'est créée entre les Africains et eux-mêmes. Alors comment faire pour en sortir? Je pense que la première chose, c'est accepter une chose très simple, c'est que le fait religieux est un fait extrêmement répandu, extrêmement divers, extrêmement complexe, qui a différents types de supports, et peut-être accepter aussi que, et d'ailleurs votre collègue Moudimbe avec l'odeur du père a montré toutes les difficultés à sortir de ça, parce que un chrétien ou un musulman a une idée assez précise et assez arrêtée de ce qu'est la religion. Et soit on est comme lui avec la religion, soit on est dans l'animisme ou le paganisme. Donc la première peut-être chose, c'est d'entendre les Africains eux-mêmes dans leur langue pour questionner la conception qu'ils ont de Dieu, qu'ils ont de l'absolu. Est-ce que c'est un Dieu? Est-ce que c'est deux? Est-ce que c'est trois? La question étant d'ailleurs, est-ce que c'est une catégorie comptable? Est-ce qu'on est obligé de dire, voilà, vous avez un Dieu, nous on en a 10, donc on est mieux que vous. Nous, on a la révélation, vous ne l'avez pas. Si on garde cet espace, il est certain qu'on n'avance pas. Par contre, si on prend une démarche peut-être beaucoup plus simple qui consiste à interroger les langues, les termes qui sont utilisés dans les langues pour décrire les pratiques concrètes, comment les uns se relient aux autres, en quoi ils croient, quelles sont leurs projections, quel est l'univers mental qui leur donne une raison d'être, une raison d'exister. Alors là, on va commencer à se dire, bah tiens, ces gens-là ont leur façon de lier l'être humain à l'être humain, mais de lier l'être humain à des forces supérieures, de lier l'être humain à une destinée. Et là, on peut leur concevoir, leur admettre à la fois des croyances, et quand ces croyances sont instituées, quand elles sont dans la durée avec, on va dire, un culte, avec un personnel assigné à l'animation de ces cultes, alors on va parler de religion. Mais il faudrait peut-être sortir... accepter d'une forme d'excommunication ou d'accepter de sortir de ses certitudes, de ses propres croyances. C'est très difficile. Je suis convaincu que les innovations conceptuelles que nous devons faire pour lire le monde africain et l'histoire africaine ne peuvent pas être neutres sur le chercheur lui-même. Elles impliquent que lui-même, qu'il lui en coûte à lui, c'est-à-dire qu'il en coûte à ses propres prénotions, et vraiment les notions sur lesquelles il démarre, eh bien, il doit pouvoir à un moment donné les suspendre. Suspendre l'idée d'un universalisme qui s'applique à tout. Suspendre l'idée d'un individualisme qui s'applique a priori à tout. Et de cette façon-là, revenir peut-être par des monographies, par des textes à partir de langues, rechercher les manuscrits, par exemple les manuscrits en différentes langues, étudier les différentes graphies qui sont souvent liées, pas toujours, mais souvent liées aux religieux. Je pense que ce sont des pistes qui peuvent nous permettre de lire aussi le phénomène religieux africain à plusieurs niveaux. Mais ce n'est pas évident parce que il y a eu beaucoup d'hybridation aussi. On a dans le christianisme africain, vous le savez très bien, les Africains très vite ont dit on veut bien, mais nous, on ne croit pas comme ça. En Afrique du Sud, en Afrique de l'Est, depuis le 19e siècle, il y a eu toutes sortes de changements de paradigme par les Africains eux-mêmes. On a appelé ça plus tard la théologie de la libération. Mais même du côté de l'islam, il y a eu des pratiques similaires. On a aujourd'hui le mouridisme, on a ce qu'on appelle la Tidjani ou le Tidjanisme, qui propose aussi leur propre version. Donc c'est pas évident de retrouver qu'est-ce qui est le fait religieux africain et qu'est-ce qui relève de l'importation. Mais c'est absolument stimulant pour les chercheurs, précisément, d'accepter, j'ai envie de dire, cet effort demiurgique d'aborder ces questions-là.
Marcel Zebelinga, nous avons, pour finir, mais nous reviendrons certainement plus tard sur ces notions, des notions justement qui commencent à entrer dans la pratique du métier. Mansaya, Kurukanfuga, Samankuya, Ubuntu, Serissa. Donc, plutôt que de traduire et de mal traduire, on se dit qu'il est parfois plus simple de prendre le concept que les gens ont utilisé pour désigner des réalités très complexes. Et finalement, de travailler là-dessus. Pourquoi dire État alors que ce mot a une histoire? Pourquoi dire politique alors que ce mot aussi a une histoire? Alors que les Africains, bien sûr, ont vécu en société, dans des États, dans des formes sociales très diverses et avaient des concepts pour cela. Est-ce que ça n'est pas l'une des directions les plus fécondes dans lesquelles il faut aller et dans lesquelles, du coup, les historiens travailleraient avec les linguistes, avec les philosophes, avec les théologiens, etc.
Je suis convaincu que cette interdisciplinarité est une nécessité. Si vous voulez parler de Sanankuya, moi qui suis du sud du Cameroun dans la région dite Fambéti, on a le même concept qu'on appelle Avusso. Et alors ça a été traduit par joking relations, parenté à plaisanterie. Bon, mais les termes utilisés par les Africains eux-mêmes pour décrire ce type de pratique ne parlent pas de plaisanterie. Donc c'est même quelque chose de très sérieux, même si ça s'énonce, ça se pratique par la plaisanterie. Derrière, il y a des choses beaucoup plus profondes. Donc effectivement, il faut passer par les langues. Et ensuite, il faut interroger l'anthropologie de ces choses-là pour pouvoir leur donner un vrai sens. Et je pense que pour ce genre de choses, comme pour d'autres, il y a une urgence, effectivement, à... reconstruire une compréhension des concepts à partir des langues qui désignaient ces pratiques et effectivement utiliser plusieurs disciplines quand c'est nécessaire pour pouvoir avoir accès.
Merci beaucoup. Donc on peut terminer sur un appel aux jeunes chercheurs. Sachez rompre. Penser, inventer. Il y a un travail immense dont l'histoire générale de l'Afrique a jeté les fondements et il faut élever les étages pour aller jusqu'au bout en sachant que il n'y a pas de sommet. Tout continue bien sûr à progresser. Merci à vous Martial Zebelinga d'être venu à Mémoire d'un continent, émission réalisée par Olivier Raoul.
Cette émission vous a été présentée en partenariat avec l'UNESCO.